à Madame Ursula von der Leyen.
Thank you, Madame President.
Merci, Madame la Présidente, ma chère Roberta. Je voudrais commencer par vous féliciter du fond du cœur pour votre réélection. Votre réussite est le témoin du travail remarquable que vous avez accompli dans cette maison de la démocratie.
Honorable members.
Mesdames et messieurs les députés, cela fait 5 ans maintenant que je suis venue pour la première fois vous demander votre confiance. 5 années comme nous n'avons jamais connu d'autres dans l'histoire de l'Union européenne. Je me souviendrai toujours de ces moments très prenants que nous avons vécus ensemble dans l'hémicycle. Il y a 5 ans, alors que je vous demandais la confiance, j'ai proposé Next Generation EU et je n'oublierai jamais, au fil de ces 5 ans, l'arrivée du président Zelensky au début de la guerre en Ukraine. Lors de sa venue, même les interprètes ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Je n'oublierai jamais les sièges vides que Alexei Navalny aurait dû occuper. Je me souviens du moment de silence observé en mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de la pandémie. Je me souviens également des sons des chants d'adieu de certains. Je me souviens également de David Sassoli qui lançait un appel pour une Europe unie et forte.
Honorable members.
Mesdames et messieurs les députés, les choix sont déterminants pour nos destinées. Et dans des moments d'adversité, l'Europe dépendra de ce que nous allons faire. En dépit des grands progrès que nous avons accomplis, des grands défis que nous avons su relever, l'Europe est à présent confrontée à un choix très clair qui sera déterminant pour les 5 années qui viennent. Nous allons devoir décider de notre place dans le monde pour les 50 prochaines années. Il s'agit de savoir si nous voulons suivre les événements qui se passent dans le monde qui nous entoure ou si nous voulons nous unir et construire nous-mêmes notre avenir. Et c'est à nous de faire ce choix. L'Europe ne peut pas contrôler les dictateurs, les démagogues un peu partout dans le monde. En revanche, l'Europe peut choisir de protéger sa propre démocratie. L'Europe ne peut pas décider du sort des élections dans le monde, mais l'Europe peut choisir d'investir dans la sécurité et la défense de ce continent. L'Europe ne peut pas stopper le changement, mais elle peut choisir de l'accepter et d'investir dans une nouvelle ère de prospérité pour améliorer notre qualité de vie. Mesdames et messieurs les députés, si nous devons choisir l'Europe de demain, il faut savoir ce que ressentent les citoyens aujourd'hui. Nous vivons une période d'angoisse profonde, d'incertitude. Les familles ressentent les difficultés liées au coût du logement, au coût de la vie. Les jeunes s'inquiètent pour la planète, pour leur avenir, pour les annonces de guerre. Les entreprises, les agriculteurs ont du mal à s'en sortir et tout cela est un symptôme d'un monde dans lequel tout est transformé en armes, tout est contesté. Un monde où il y a des tentatives de polarisation, de division de nos sociétés. Je suis très préoccupée par de telles tendances. Je suis néanmoins convaincue que l'Europe, une Europe forte, peut être à la hauteur de ce défi. C'est la raison pour laquelle je vous demande votre confiance aujourd'hui. En effet, tout comme vous, je suis entrée en politique pour changer la société. Dans l'intérêt des générations, de mes enfants, de mes petits-enfants, tout comme ceux qui nous ont précédés l'ont fait. Et je suis convaincue que L'Europe, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a certes connu beaucoup d'imperfections, d'inégalités, et pourtant, cette version de l'Europe reste la meilleure que nous ayons connue dans notre histoire. Je ne me contenterai jamais de regarder passivement l'Europe être déchirée de l'intérieur comme de l'extérieur. Je n'accepterai jamais que la polarisation extrême de notre société soit acceptable. Je n'accepterai jamais que les démagogues et les extrémistes détruisent notre mode de vie européen. Aujourd'hui, je suis prête à mener la bataille que toutes les forces démocratiques de ce Parlement mènent.
And this is the vision I have set out.
C'est la vision que j'ai inscrite dans mes orientations politiques, la vision d'une Europe forte qui apporte la prospérité, qui protège les citoyens et qui défend la démocratie. Une Europe forte qui apporte l'égalité sociale, qui soutient les personnes. Une Europe forte qui applique les accords de manière juste et qui s'en tient aux accords du pacte vert de manière pragmatique avec la neutralité technologique, avec l'innovation. J'ai écouté très attentivement les forces démocratiques qui siègent au Parlement et je suis convaincue que ces orientations sont le reflet de ce que nous avons en commun en dépit des divergences qui sont saines dans toute démocratie. Alors, mesdames et messieurs les députés, notre toute première priorité sera la prospérité et la compétitivité. Au cours des 5 dernières années, nous avons su résister aux tempêtes les plus dures qu'a connues notre économie. Nous avons vécu les difficultés des confinements. Nous avons traversé une crise énergétique sans précédent. Et cela, nous l'avons fait ensemble. Et je suis persuadée que nous pouvons en être fiers. Mais nous savons également que notre compétitivité doit être encouragée. La base de l'économie mondiale est en train de changer et ceux qui restent immobiles vont perdre du chemin. Ceux qui ne sont pas compétitifs vont devenir dépendants. La course est donc lancée et moi je veux que l'Europe passe à la vitesse supérieure. Et l'on commence en simplifiant le monde des affaires, en l'accélérant. Nous devons approfondir le marché unique, tous azimuts. Il faut moins de rapports, moins de bureaucratie, plus de confiance, plus de mise en œuvre des règles. Et je veux assumer ma responsabilité en la matière, parce qu'il faut pouvoir mesurer les pas accomplis. Et c'est la raison pour laquelle je demanderai à chaque commissaire de travailler très concrètement sur la réduction du fardeau administratif. Et je demanderai à un coprésident de coordonner ce travail et de me faire un rapport et de faire un rapport au Parlement sur ce travail une fois par an. Je présenterai un nouveau contrôle de la compétitivité des entreprises dans le cadre de notre boîte à outils. Nous savons aujourd'hui que l'Europe dépend des PME, elles sont le cœur de notre économie, les petites et moyennes entreprises. Alors supprimons le fardeau administratif qui pèse sur ces PME et donnons plus d'incitatifs car les PME le méritent. Mesdames et messieurs les députés, la prospérité et la compétitivité. Je peux vous donner quelques chiffres. Au premier semestre de cette année, 50% de notre génération électrique provenait d'énergies renouvelables, européennes, propres. Les investissements dans les technologies propres en Europe ont plus que triplé au cours de ce mandat. Nous attirons plus d'investissements dans les hydrogènes propres que les États-Unis et la Chine ensemble. Au cours de ces dernières années, nous avons conclu avec des partenaires mondiaux 35 nouveaux accords sur l'hydrogène propre et sur les matériaux critiques. Ça, c'est le pacte vert en mouvement. Alors, pour que les choses soient très claires, je dirais que nous maintiendrons le cap sur cette stratégie de croissance. Ce cap a été fixé pour 2030 et 2050 et nous allons à présent nous concentrer sur la mise en œuvre et sur les investissements pour que les choses changent sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle je vais présenter un nouveau pacte sur l'industrie propre dans la première partie de mon mandat. Ceci afin d'attirer des investissements, afin de créer des infrastructures, des industries, notamment pour les secteurs intensifs en énergie. Et ceci nous aidera à créer des marchés clés, donc je pense à la sidérurgie propre, la clean tech. C'est ainsi que l'on devra accélérer les marchés publics. Il faut que cela se passe plus rapidement parce que l'Europe est en train de se décarboner et de s'industrialiser en même temps. Nos entreprises ont donc besoin de prévisibilité pour qu'elles puissent investir et innover. Et oui, les entreprises peuvent compter sur nous. Et c'est en suivant cette logique que nous allons inscrire notre objectif de 90% pour 2040 dans notre loi sur le climat européenne. Nos entreprises doivent pouvoir planifier leurs investissements pour les décennies qui viennent dès aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi les entreprises, mais pas uniquement les entreprises. Cela concerne aussi les jeunes, les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, 2030, 2040, 2050, mais c'est demain. Et ils savent que nous devons tenir compte de la protection de l'environnement tout en garantissant une économie prospère. Et les jeunes ne nous pardonneront jamais si nous ne sommes pas à la hauteur de ce défi. Ce n'est donc pas qu'une question de compétitivité, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi une question d'équité entre générations. Les jeunes méritent que nous agissions pour eux.
The new clean industrial deal with...
Le nouveau pacte sur l'industrie propre devrait également nous aider à faire baisser les factures d'énergie. Nous savons tous que des prix énergétiques qui sont structurellement élevés portent préjudice à notre compétitivité. Et les factures d'énergie sont à la base de la pauvreté énergétique des citoyens. Je n'ai pas oublié que Poutine nous a fait un chantage. Il nous a menacé de nous couper l'accès aux carburants fossiles russes. Mais nous avons été à la hauteur, nous avons investi de manière très importante dans des énergies renouvelables européennes et bon marché. Et ceci nous a permis de nous libérer des combustibles sales russes. Nous veillerons à ce que l'ère de la dépendance vis-à-vis de la Russie soit derrière nous, et ce, une bonne fois pour toutes.
Honorable members.
Mesdames et messieurs les députés, l'Europe a besoin de plus d'investissements. Que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les technologies stratégiques, numériques, on a besoin également d'investir dans les citoyens, dans leurs compétences. Ce mandat doit être le mandat des investissements. Et l'on commence par notre union du marché des capitaux. Il faut mobiliser plus de financements privés. Chaque année, 300 milliards d'euros d'épargne européenne quittent l'Europe pour aller vers des marchés étrangers parce que nos marchés des capitaux sont trop fragmentés. Et cet argent, souvent, sert à acheter des entreprises européennes novatrices. Et ces entreprises quittent l'Europe. Il faut que cela change. Il faut profiter de cette épargne pour créer la croissance en Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous allons proposer une union européenne des économies et des investissements. Les jeunes pousses européennes ne doivent pas se tourner vers les États-Unis ou vers l'Asie pour trouver des investissements. Ces start-up doivent trouver de l'argent ici en Europe. Nous avons donc besoin d'un marché des capitaux, d'un marché des liquidités. Nous avons besoin d'une politique de la concurrence au service des entreprises pour qu'elles puissent passer à la vitesse supérieure. L'Europe doit être la terre des opportunités et de l'innovation. Mesdames et messieurs les députés, il faut également que les investissements privés suivent. Mais pour ce faire, il faut commencer par des financements publics. Oui, nous avons les ressources de Next Generation EU dans le budget actuel, mais cela terminera dans les années qui viennent, alors que nos besoins en investissement, eux, ne termineront pas. Notre nouveau budget sera renforcé. Nous aurons besoin de plus de capacités d'investissement. Il faut cibler davantage les politiques, il faut que les choses soient plus simples pour les États membres, il faut que le budget ait plus d'impact, de manière à ce que nous puissions utiliser ce pouvoir pour qu'il y ait plus de financement privé. Et je proposerai un nouveau fonds de la compétitivité. On se concentrera ainsi sur des projets transfrontaliers européens, des projets communs, qui seront à la base de l'innovation et de la compétitivité. Et ainsi, l'on veillera à mettre au point des technologies stratégiques qui seront fabriquées ici en Europe, que ce soit l'intelligence artificielle, la clean tech, l'avenir de notre prospérité, il doit se construire en Europe. Il faut vraiment insister là-dessus, mesdames et messieurs les députés. Mesdames et messieurs les députés, il nous faut également investir davantage dans notre sécurité et notre défense. La Russie est toujours sur l'offensive dans l'est de l'Ukraine et la Russie compte sur nos guerres d'attrition. Elle compte sur un hiver qui s'annonce plus difficile encore que le précédent. L'Europe mise sur un affaiblissement de l'Europe et de l'Occident. Et certains en Europe jouent ce jeu. Il y a 2 semaines, un premier ministre de l'Union européenne s'est rendu à Moscou. Cette soi-disant mission de paix n'était qu'une mission d'apaisement. C'était simplement une mission d'apaisement. Deux jours plus tard, le jet de Poutine a visé une maternité et un hôpital pédiatrique à Kiev. Nous avons vu des mères essayer de mettre en sécurité leurs enfants atteints de cancer. Ces missiles n'ont pas été tirés par erreur. Ces missiles étaient une erreur effroyable envoyée par le Kremlin. Alors, mesdames et messieurs les députés, notre réponse doit être tout aussi claire. Nul ne veut plus la paix que les citoyens ukrainiens. Une paix juste et durable. Un pays libre et indépendant. Et l'Europe sera aux côtés de l'Ukraine autant que ce sera nécessaire, tel est notre message.
Mesdames et messieurs les députés, nous devons donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour résister et vaincre. Cela implique des choix fondamentaux pour notre avenir. Pour la première fois, depuis des décennies, notre liberté est en danger. Nous sommes responsables pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger nos citoyens européens. Protéger l'Europe, c'est le devoir de l'Europe. Alors, je pense qu'il est temps de construire une véritable Union européenne de la défense. Je sais que certains ne sont peut-être pas à l'aise avec cette idée, mais ce qui devrait nous mettre mal à l'aise, ce sont les menaces qui pèsent sur notre sécurité. Soyons très clairs. La sécurité nationale collective. Mais nous le savons tous, nos dépenses de défense sont trop faibles et inefficaces. Nous dépensons trop à l'étranger et nous devons donc créer un marché unique de la défense. Nous devons investir plus dans les capacités de défense haut de gamme. C'est-à-dire, l'Europe doit avancer sur la voie tracée par la déclaration de Versailles. Nous devons investir plus, nous devons investir ensemble et nous devons créer des projets européens communs. Par exemple, un système complet de défense aérienne, a European Air Shield, non seulement pour protéger notre espace aérien, mais aussi comme symbole fort de l'unité de l'Europe en matière de défense. Honorable members, security is not only about...
Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas que de menaces externes en matière de sécurité. Les menaces cybernétiques sont à la hausse. Des réseaux de criminalité organisée croissants s'infiltrent dans notre économie en utilisant souvent la corruption. Ils génèrent la crainte et la mort de personnes innocentes avec une violence brutale qui est à l'œuvre. Ils drainent des sommes considérables d'argent venant de trafic de drogue, de rançonnement, de fraude, de traite d'êtres humains. Et ils font fi des frontières nationales. Donc, il est nécessaire que nous répondions à cette menace croissante au niveau européen. Nous devons nous assurer que les forces de l'ordre peuvent agir partout dans l'Union européenne, au-delà des frontières internes. C'est la raison pour laquelle je propose de multiplier par deux le personnel d'Europol et renforcer son mandat. Je veux qu'Europol devienne une agence de police pleinement opérationnelle. Et nous devons redoubler d'efforts en matière de sécurisation de nos frontières externes, tout particulièrement notre frontière orientale. En effet, elle est devenue la cible d'attaques cybernétiques et de provocations. La Russie attire des migrants du Yémen vers le nord, exploite leurs souffrances et les envoie vers la frontière de la Finlande. Nous ne devons jamais oublier le fait que la frontière d'un État membre est une frontière de l'Union européenne. Nous devons tout faire pour les consolider. C'est la raison pour laquelle nous devons renforcer Frontex afin qu'il soit plus efficace tout en respectant pleinement les droits fondamentaux. Je proposerai donc de multiplier par trois le nombre de gardes frontières de l'Union européenne pour atteindre 30 000 personnes. Des frontières externes plus sûres nous permettront de gérer la migration d'une manière plus équitable et structurée. Le pacte migration et asile est une étape essentielle dans cette démarche. La solidarité est désormais au cœur de notre responsabilité commune. Les défis liés à la migration imposent une réponse européenne avec une approche ferme et juste, fondée sur nos valeurs, en n'oubliant jamais que les migrants sont des êtres humains comme vous et moi. Et chacun d'entre nous est protégé concernant ses droits humains. Je sais que très pessimiste disait que la migration est un sujet trop controversé pour pouvoir nous... Mais nous y sommes arrivés ensemble, nous nous sommes mis d'accord et nous en sommes sortis renforcés. Maintenant, c'est collectivement que nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de ce pacte et soutenir les États membres pour que les choses se concrétisent sur le terrain. Et ensuite, il y aura encore des efforts à faire. Nous avons besoin d'une approche commune concernant les retours, afin que la procédure soit plus efficace, les retours plus dignes. Et nous devons développer nos partenariats complets, tout particulièrement dans notre partenariat méridional. La région de la Méditerranée devrait bénéficier d'une attention unie. Et c'est la raison pour laquelle je nommerai un commissaire chargé des affaires dans les relations avec cette région. Parce que l'avenir des deux côtes de la Méditerranée, en fait, est un avenir commun. Mesdames et messieurs, l'avenir de nos voisins est également lié à notre avenir, à nous. Inviter les pays voisins à l'intérieur de l'Union européenne est une responsabilité commune historique. C'est une responsabilité géostratégique énorme qui incombe sur l'Union européenne. Parce qu'une union plus grande serait plus forte. Cela renforcerait notre voix dans le monde. Cela nous permettrait de réduire nos dépendances externes. Et cela assurerait que la démocratie, la prospérité et la stabilité se diffusent partout en Europe. Nous soutiendrons les pays candidats en renforçant les investissements et la réforme. Et en les invitant à participer aux structures politiques là où cela est possible. Ce sera toujours un processus basé sur le mérite et nous assurerons que les pays candidats seront prêts avant de nous rejoindre. Mais élargir l'Union européenne est également dans notre propre intérêt. Ce sera vraiment un intérêt central de ma commission. Je suis profondément convaincue qu'il s'agit là de répondre à un appel de l'histoire. Les Balkans occidentaux, l'Ukraine, Moldova, la Géorgie, ils ont pris une décision de libre arbitre. Ils ont préféré la liberté à la répression. Ils ont préféré la démocratie à la dépendance. Et certains paye un lourd tribut pour cette décision libre. Donc nous devons également prendre notre décision et assumer nos engagements et leur dire que leur avenir sera basé sur la liberté, la prospérité et qu'il fera d'eux des membres de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, l'Europe a la responsabilité de jouer un rôle actif au niveau mondial, à commencer par notre voisinage, et tout particulièrement au Moyen-Orient. Je voudrais dire sans embâge à ce sujet que le bain de sang dans la bande de Gaza doit cesser sans tarder. Trop d'enfants, de femmes, de civils ont perdu la vie suite à la réponse d'Israël à la terreur brutale du Hamas. Le peuple de la bande de Gaza n'en peut plus. L'humanité n'en peut plus. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Les otages israéliens doivent être libérés sans tarder et nous devons nous préparer pour la suite. L'Europe doit assumer sa part. Nous avons massivement augmenté notre aide humanitaire pour atteindre 200 millions d'euros pour 2024 et nous irons plus loin. Nous élaborons un plan multiannuel et multiniveau pour soutenir les autorités palestiniennes. La solution à deux États est la meilleure manière d'assurer la sécurité pour les deux parties, pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Les peuples du Moyen-Orient méritent la paix, la sécurité, la prospérité. Et l'Europe sera à leur côté.
Mesdames et messieurs les députés, l'Europe offre à ses citoyennes et citoyens une qualité de vie inégalée. La sécurité sociale, bien entendu, est une source essentielle de bien-être. Les vignobles, les prairies, les vergers, cela ne signifie pas simplement de bonnes bonnes choses à boire ou à manger. Cela fait partie intégrante de notre sentiment d'appartenance à une communauté. Par conséquent, l'agriculture est un thème d'autant plus sensible pour cette Europe qui est la nôtre. Nous devons être en mesure de surmonter nos divergences et de trouver des solutions dans l'intérêt de toutes et tous. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un dialogue stratégique concernant l'avenir de l'agriculture en Europe. Ce dialogue doit permettre aux agriculteurs, aux défenseurs de l'environnement, aux experts de la chaîne alimentaire de s'asseoir autour d'une même table. J'ai promis de les entendre et d'apprendre d'eux ce qu'il y aura lieu de faire. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je proposerai une nouvelle stratégie pour le secteur alimentaire et l'agriculture en Europe. Et je m'engagerai afin que les agricultrices et les agriculteurs puissent bénéficier d'un revenu juste. Personne ne doit être contraint de vendre des denrées alimentaires en dessous du prix de production. La position de nos agricultrices et de nos agriculteurs sur l'ensemble de la chaîne alimentaire doit être renforcée. Il nous faut des mesures incitatives, des mesures d'innovation, un meilleur accès aux capitaux pour les agricultrices et les agriculteurs. Cela permettra également de défendre la biodiversité, de réduire les émissions de CO2. Et pour cela, il faut impérativement que si l'on œuvre pour ces deux réalités, l'on soit récompensé de ces efforts. Nos agricultrices, nos agriculteurs font partie intégrante des paysages européens, du visage de l'Europe. Ils font partie intégrante de ce qui est notre culture. Ils garantissent la sécurité alimentaire et par conséquent, nous sommes toutes et tous fiers de nos agriculteurs. Ensemble, trouvons des solutions aux problèmes qui pèsent pour ces agriculteurs, le changement climatique, pénurie de la ressource hydrique ou tempête, exacerbation annuelle de ces difficultés. L'on voit les effets dévastateurs de ces différents phénomènes climatiques dans les champs et sur les récoltes. Cela veut dire que le paysage agricole change. Et change de plus en plus. Il faut que nous en fassions davantage afin qu'avec les agricultrices et les agriculteurs, nous soyons mieux en mesure de nous défendre contre les difficultés que nous allons connaître, climatiques et autres. Il faudra par conséquent offrir des financements afin que les agriculteurs puissent s'adapter au changement climatique et mettre en place une stratégie relative à la meilleure façon de gérer la ressource hydrique, une ressource précieuse en raréfaction. Il faut que nous garantissions notre compétitivité tout en défendant notre environnement. Voilà la tâche qui nous incombe.
Mesdames et messieurs, notre qualité de vie et notre tissu social sont vraiment uniques. Nous avons fait de grands progrès en matière de droits sociaux avec le salaire minimum, avec la première garantie pour l'enfance, pour ne citer que quelques exemples. Pendant la pandémie, ce sont 40 milliards d'emplois que nous avons pu sauver. Et vraiment, nous pouvons en être fiers. Mais de nouveaux défis sont devant nous. L'impact de l'IA, la santé mentale au travail et de nouveaux facteurs de pauvreté. Donc nous avons besoin d'un nouveau plan d'action pour la mise en œuvre du pilier social. Nous devons assurer une transition juste et de bonnes conditions de travail pour les travailleurs et les indépendants. Or, le dialogue social est la clé de tout cela. Vraiment le cœur de notre économie de marché. C'est la raison pour laquelle nous allons tout faire pour augmenter les conventions collectives, renforcer le dialogue social et nous allons nous attaquer aux problèmes qui touchent le plus les Européens au quotidien. Prenez le logement. L'Europe est confrontée à une crise du logement. Les personnes de tout âge, de toute forme de famille en sont touchées. Les prix les loyers sont à la hausse, les personnes ont du mal à trouver garder leur maison. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, je nommerai un commissaire ayant une responsabilité directe en matière de logement. Nous développerons un plan européen de développement du logement pour analyser tous les facteurs de cette crise et pour que cela, investissements et publics et privés sont nécessaires. Habituellement, le logement n'est pas considéré comme une question européenne. Certains disent que nous ne devrions pas nous en mêler, mais je voudrais que notre commission soutienne les citoyens là où ils en ont le plus besoin et si quelque chose compte pour les Européens, eh bien cela compte pour l'Europe. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous pouvons renforcer notre société. Cela veut dire qu'il faut s'assurer que toutes les régions de toute l'Europe sont soutenues, que personne n'est laissé de côté. Je m'engage à une politique de cohésion forte, conçue en collaboration avec les régions et les autorités locales. Je veux que l'Europe soit le meilleur endroit pour s'y épanouir, pour se développer, et le meilleur endroit pour vieillir. Nous devons permettre aux jeunes de profiter au maximum des libertés de l'Europe, d'un Erasmus+ renforcé, jusqu'à un engagement citoyen renforcé. Mais nous devons également protéger les jeunes. L'époque de l'enfance et de l'adolescence sont des périodes où nos caractères se forgent, nos personnalités se développent, notre esprit est développé, structuré, enfin les motivations, les émotions. Donc c'est une période de développement intense, mais c'est également une période de forte vulnérabilité. Et de plus en plus d'études nous montrent qu'il y aurait une crise de la santé mentale. Le temps excessif d'exposition aux écrans et de jeux, ils sont probablement pour quelque chose. Et je dois dire que je tremble lorsque j'entends parler de jeunes qui s'automutilent, voire même se suicident à cause d'abus en ligne. Je pense aux derniers instants de leur vie et à la souffrance qu'ils ont dû ressentir. Je pense à leurs parents, à leurs amis, et cela me fend le cœur. Mesdames et messieurs, on ne peut accepter cela dans nos sociétés. Nous nous attaquerons au bullying cybernétique et nous prendrons des mesures contre les conceptions addictives de certaines plateformes et nous lancerons la première enquête à niveau européen concernant l'impact des médias sociaux sur le bien-être des jeunes. Nous le leur devons et nous continuerons tant que nous n'aurons pas remporté cette bataille. Mesdames et messieurs, un des choix cornéliens qui se présente devant nous est justement de savoir quelle est la société que nous appelons de nouveau pour nos enfants et nos petits-enfants, et tout particulièrement pour nos filles et nos petites-filles. Concernant les droits des femmes, vraiment nous avons pu faire l'impossible grâce à l'IM, à la solidarité et à la participation de cette assemblée transpartisane. Après 10 ans de lutte, nous avons débloqué la directive concernant le droit des femmes. Nous avons obtenu de grands progrès concernant la transparence salariale. Et je dois dire qu'aucune raison n'existe pour qu'une femme soit payée moins pour le même travail qu'un homme. Mais il faut continuer nos efforts, continuer à lutter contre la violence conjugale, continuer à se battre pour la réconciliation entre la vie privée et vie professionnelle, et pas uniquement pour les femmes, mais les femmes sont les plus touchées par ce phénomène. Lutter contre l'écart salarial parce qu'il n'y a pas de coïncidence. La pauvreté, en la vieillesse, a un visage féminin. Eh bien, travaillons ensemble afin de mettre en place une feuille de route pour les droits des femmes, continuons à avancer. Eh bien, si nous n'y arrivons pas maintenant, ce sera pour quand?
La démocratie
est notre trésor commun. Elle est le cadre du sein duquel nos différences et nos désaccords peuvent s'exprimer. Le cadre est aussi vital que fragile. Très longtemps, nous l'avons considéré comme acquis. Nous sommes devenus des démocrates de confort. Mais aujourd'hui, nos démocraties sont menacées. La Russie mène une guerre sans relâche sur le sol européen en Ukraine depuis plus de 2 ans. Partout dans l'Union et au sein même de nos institutions, nos services et des journalistes, dont je veux saluer ici le travail, révèlent des cas d'espionnage, de cyberattaques, de corruption, de campagnes de désinformation menées par des acteurs étrangers, notamment russes et chinois. Jamais depuis des décennies, le niveau de menaces et d'attaques hybrides n'a été aussi élevé. Au sein de la Commission, nous avons pleinement conscience de cette situation et agissons en responsabilité depuis de nombreuses années. Un énorme travail d'analyse est réalisé et des premiers outils efficaces ont été mis en œuvre en bonne coopération avec les États membres. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons empêcher les acteurs étrangers hostiles d'interférer dans nos processus démocratiques, de les miner et enfin de les détruire. Pour cela, nous devons prendre des mesures fortes au niveau européen. Si vous m'accordez aujourd'hui votre confiance, la Commission proposera un bouclier européen de la démocratie. L'Union a besoin... L'Union a besoin de sa propre structure dédiée à la lutte contre les manipulations de l'information et des ingérences étrangères. Cette structure regroupera toute l'expertise et assurera la liaison et la coordination avec les agences nationales existantes. Les capacités de renseignement, de détection, d'action, mais aussi de sanctions doivent être renforcées. Le bouclier va prendre en compte les recommandations émanant des travaux menés ici par les commissions spéciales sur les ingérences étrangères pour mieux protéger nos démocraties. Il est urgent de doter l'Union européenne d'outils performants de cyberdéfense, d'imposer la transparence des financements étrangers de notre vie publique comme une règle commune, mais aussi de garantir un cadre informationnel fiable. Et pour cela, l'Union doit soutenir le journalisme indépendant. L'Union doit continuer à faire respecter les règles aux géants du numérique et encourager toujours davantage les programmes d'éducation aux médias. La démocratie européenne peut être plus participative, plus vivante, la société civile mieux aider et défendre. Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour faire advenir ce grand plan de défense de la démocratie européenne. Honorable members.
Mesdames et messieurs les députés, nous allons également garantir une montée en puissance du travail que nous menons pour défendre la démocratie, la liberté des médias, la société civile, l'état de droit et la lutte contre la corruption seront au cœur même de notre travail. Nous renforcerons les outils dont nous disposons, veillerons à une bonne application des règles, notre rapport sur l'état de droit, nous veillerons à ce qu'il soit respecté. L'on s'intéressera tout particulièrement à la dimension protection des entreprises par le marché intérieur. Nous nous doterons également dans nos budgets de principes clairs. Le respect de l'état de droit est incontournable dès lors qu'il s'agit d'obtenir des financements européens au titre du budget actuel ou des autres budgets. Et, mesdames et messieurs les députés, le progrès est un travail constant. Il nous faut un programme d'action ambitieux afin de garantir la légitimité démocratique d'une Europe qui s'élargira. Nous avions dû réformer par le passé, mais du fait de l'élargissement, ces réformes deviennent indispensables. Ça doit être un catalyseur du changement, cela doit nous permettre d'agir davantage par le truchement de nos budgets et de nos politiques. Mais bien entendu, nous ferons la part belle à ce que nous pouvons d'ores et déjà faire, et nous pouvons en faire beaucoup. Mais il y a lieu pour nous de revoir à la hausse notre niveau d'ambition. Il faut que nous modifions les traités dès lors que cela peut améliorer le fonctionnement de l'Union. Et je veux y travailler avec le Parlement européen, en étroite collaboration entre la Commission européenne et le Parlement européen. J'ai en effet entendu vos revendications, vos préoccupations. Je continue de soutenir votre droit d'initiative et j'entends renforcer la coopération sur les résolutions article 225 afin de veiller à ce que ces résolutions soient suivies des faits. Nous devons réviser l'accord cadre afin de garantir davantage de transparence, davantage de responsabilité et de présence au Parlement. Mais les institutions peuvent travailler ensemble parce que c'est lorsque les institutions européennes travaillent ensemble que l'Europe avance. Mesdames et messieurs les députés, pour conclure, à la fin de son deuxième mandat, Jacques Delors disait
« Et non seulement le fruit de l'histoire et de la nécessité, mais aussi de la volonté. This is a fundamental choice that we face.
C'est un choix fondamental auquel nous sommes confrontés. L'histoire frappe à notre porte, sans cesse. L'Europe sera plus nécessaire que jamais à l'avenir. Il faut que notre détermination soit à la hauteur des enjeux de notre continent. C'est le pouvoir des peuples qui veulent en faire davantage, qui veulent parvenir à davantage, qui doivent faire entendre leur voix, et non la voix du destin auquel on serait tout simplement livré. Des générations entières ont construit leur avenir sur l'acier et le charbon, mais lorsque les blindés soviétiques ont pénétré dans les rues de villes européennes, les hommes et les femmes étaient désarmés, luttaient à main nue. Encore une fois, c'est un rêve, le rêve qu'incarne l'Europe, qui est un rêve pour des générations entières. Mais nous sommes parvenus à créer l'Europe, à choisir une Europe forte. Notre responsabilité considérable, c'est à nous d'être à la hauteur de cette responsabilité. Ces 5 dernières années, nous avons montré de quoi nous sommes capables lorsque nous travaillons ensemble. Continuons de travailler ensemble. Faisons le choix de la force. Faisons le choix du leadership. Faisons le choix de l'Europe. Merci beaucoup et vive l'Europe.
Thank you.